Futur Terrain, émission mensuelle sur JetFM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. À l'heure des grandes mutations, démographiques, urbaines, sociales et écologiques, nos sociétés s'accélèrent. Dans ce contexte d'incertitude, comprendre les enjeux devient indispensable. Mais comment les représenter pour nous permettre de mieux comprendre le monde et de savoir agir? Quand on fait une focale sur nos milieux de vie, quand on regarde les territoires, on se demande « Que s'y joue-t-il vraiment ?» Les cartes apparaissent alors comme des boussoles qui permettent d'agir. Mais disposons-nous encore des bonnes focales pour comprendre nos milieux de vie? Autrefois, la surface de la Terre est couverte d'indices pratiques pour celles et ceux qui cherchent leur chemin. Les paysages sont, en quelque sorte, des cartes vivantes qui aident à s'orienter. Dans les rapports que les humains entretiennent à l'espace, se tissent des savoirs pratiques, issus de l'expérience et des histoires vécues, qui permettent de se situer. Autrefois, au XVIIe siècle, ce sont les artistes qui dessinaient les cartes. Elles étaient destinées à un public particulier. Vérifiées et certifiées par les parties en conflit qui les commandaient, elles éclairaient les arbitres de leurs disputes. Quelques décennies plus tard, les artistes furent écartés, remplacés par des géomètres et des arpenteurs. Les cartes ont alors changé de fonction. Aider des étrangers à circuler dans des espaces inconnus. Des espaces que certains voulaient dominer et contrôler, sans discuter, sans négocier avec les populations locales. Les cartes et l'imaginaire colonial s'en trouvèrent étroitement liés. C'est ce que rappelle Bruno Latour dans la préface de Terraforma, le manuel de cartographie potentielle que nous allons explorer dans cette émission. Aujourd'hui, quelle est la raison d'être des cartes? Les cartes ont le pouvoir d'éclairer une situation en offrant un cadre de lecture et d'interprétation. À l'ère de l'Anthropocène se joue une nouvelle bascule. Réchauffement climatique, reconquête des empires, application des politiques d'extraction qui épuisent les sols, les bouleversements sont multiples. Il s'agit de représenter, alors au plus près, ces enjeux cruciaux pour réapparer le monde, prendre soin du vivant et entendre les voix invisibles. Dans ce nouvel épisode de Futur Terrain, j'ai choisi d'explorer comment les cartes, outils anciens de représentation, peuvent se transformer. Pour cela, je vous propose d'écouter Axel Grégoire, conceptrice, architecte et co-autrice avec Alexandra Arène et Frédéric Aïtouati, du manuel de cartographie potentielle Terraforma, paru aux éditions B42. Ensemble, elles ont conçu de nouveaux modèles cartographiques comme une véritable boîte à outils pour dépasser les limites des cartes classiques. Un travail conceptuel, mais qui renouvelle les perspectives. Et pour citer Bruno Latour, ce manuel permet une nouvelle lecture politique de l'espace. La façon dont nous comprenons où nous sommes définira le type de politique que nous défendons. Bienvenue dans Futur Terrain. Terraforma raconte l'exploration d'une terre inconnue, la nôtre. 5 siècles après les voyageurs de la Renaissance partis cartographier les terra incognita du Nouveau Monde, ce manuel nous invite à redécouvrir notre planète autrement. En élargissant le vocabulaire des cartes traditionnelles, il propose un nouveau regard géographique et politique. Publié aux éditions B42, une maison indépendante dédiée au design et à l'architecture expérimentale, c'est un très bel ouvrage en 7 chapitres. 7 prismes sur la réalité, comme 7 visions du monde qui sont des instruments optiques ajustés. Par les profondeurs, les mouvements, le point de vie, les périphéries, le pouls, les creux, les disparitions et les ruines. Ces modèles cartographiques produisent des savoirs situés, incarnés, au sens de Donna Haraway, philosophe américaine des sciences, donc ce sont non des vues totalisantes et coloniales, mais des regards partiels, par le sol, le point de vue, les ruines, qui intègrent le vivant, les voies locales et les relations au territoire, pour une cartographie politique et réparatrice. Écrit comme un récit d'exploration, ce livre est aussi un manuel pratique de dessin. Il invite à tester des techniques de représentation sur le terrain pour bâtir ensemble un atlas inédit. Travail expérimental à 6 mains, Terraforma réunit 2 architectes, Alexandra Arène et Axel Grégoire, conceptrice et architecte au croisement du paysage et de la stratégie territoriale, et une historienne des sciences, Frédéric Aïtouati. Avec Axel Grégoire, j'ai voulu comprendre comment Terraforma est né, ce qui a déclenché ce projet et comment les apports des trois autrices se sont croisés pour en faire un manuel d'outils cartographiques concret.
Terraforma, c'est vraiment un projet à trois, enfin et à six mains, c'est un peu ce qu'on me dit dans la postface. C'est-à-dire qu'avec Alexandra Arène, donc on était dans cette agence et on commençait à lister des questions qui nous paraissaient très importantes, mais qui étaient vraiment liées à la pratique, c'est-à-dire comment on regarde les sols, pas par le foncier et pas du point de vue zénithal. Voilà, on avait des questions qui étaient quand même très liées à la pratique. Et donc, ce projet est né de ça, de l'intuition que c'était par les outils de représentation qu'on avait une possibilité d'action sur les questions qui nous étaient posées comme paysagistes, disons. Et comme je disais, à travers l'énergie, l'école de pensée, on peut dire même ça, autour de Bruno Latour et de Frédéric, on a rencontré plein de gens dont les écrits ou les concepts, comme Emmanuel Coche avec Point de vie, par exemple, dans Terraforma, ont inspiré des positionnements de ces outils graphiques. Donc, c'est intéressant de se dire que voilà, ça a commencé peut-être en 2015-2016 et puis qu'on a mis un peu de temps à formaliser, enfin à trouver ce que c'était, puisque au départ, voilà, on était même sur des fictions terrestres, on n'était pas sur des outils qui parlaient vraiment de projets, parce qu'on avait besoin, nous, de s'extirper un peu de la commande pour inventer des nouvelles choses. Et finalement, Frédéric, elle nous a ramené à la question du terrestre, à dire, mais non, en fait, vous traitez des territoires, en fait, c'est un manuel. Et c'est, voilà. Et c'est comme ça que s'est fait l'écriture, c'est-à-dire que c'était des rencontres toutes les trois où on posait des questions, c'était des échanges de mails stratifiés de plein de couleurs, c'était des choses qu'on mettait sur la table, des images, des références et des discussions. Et donc, l'écriture, elle s'est fait beaucoup à partir de ce matériau-là. Finalement, donc, c'est devenu un manuel parce que finalement, c'est devenu des outils cartographiques plus que des cartes. Et ça, c'était très important. Et c'est pour ça que c'est construit un peu comme ça, le manuel. C'est-à-dire, il y a le rapport de fabrication qui explique comment est construit l'outil. Et puis, il y a un exemple de ce que ça pourrait donner. Au moment du manuel, en fait, on avait des données qui étaient celles des projets, c'est-à-dire des données éparses. Donc on a fait un peu comme des prototypes de ces outils cartographiques et depuis en fait on les a testés, on les a affinés, on les a fait rencontrer des réalités bien diverses. Donc le projet il a continué et il continue encore. On était toutes les deux dans une agence de paysage qui s'appelle Base. Donc on travaillait plutôt sur des questions de territoire, des études territoriales, avec cette entrée qui était celle de l'écologie. Mais c'est vraiment justement à l'origine du projet, c'est-à-dire que finalement, on fait des projets de paysage avec beaucoup d'outils qui sont ceux de la construction. Donc il y avait une question sur les outils qui étaient à notre disposition pour parler du vivant, pour parler des sols. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré, enfin Alexandra a été formée à SPIP, donc l'école d'art et politique avait fondé la tour à Sciences Po, et qu'on a rencontré Frédéric Aitouati, qui a fait aussi que nos outils, nos questions qui étaient liées à la conception se sont un peu, ont rencontré les enjeux qui étaient ceux de l'Anthropocène, qu'on sentait comme hyper important, mais qui était pas, dont on n'avait pas encore tout le corpus théorique, c'est-à-dire qu'on nous appelait en tant que paysagistes pour, entre guillemets, réparer les territoires avec la question du vivant comme outil. Et du coup, on était confrontés à des questions et on se trouvait un peu démunis avec les outils qu'on avait. Et finalement, les questions qu'on se posait étaient très proches des questions plus théoriques autour du corpus anthropocène, et c'était aussi ça. Et ce qui est très intéressant avec la rencontre avec Frédéric, c'est justement que ça nous a permis de croiser avec Frédéric, qui est historienne des sciences, mais aussi metteuse en scène, donc qui a un rapport à l'espace qui est très important, mais qui n'était pas le même que celui de la conception ou de l'architecture, et un rapport aux outils cartographiques aussi liés à l'histoire des sciences. Donc là, il y avait un peu une sorte d'équipé transdisciplinaire qui a fabriqué cet objet un peu particulier qui est le manuel Terraforma et qui et on est toutes les trois à animer ce projet sur des plans très très divers depuis la sortie du manuel en 2019. Vraiment à partir des territoires qu'on avait, sur lesquels on avait travaillé en tant que concepteur, concepteur d'ailleurs, conceptrice, enfin architecte, paysagiste. Donc c'était un projet qui nous avait beaucoup marqué, c'était la Baie de la Chimie dans le sud de Lyon, qui était vraiment un projet qui nous a fait prendre conscience qu'on n'avait pas les bons outils pour travailler en fait. Ça serait un peu long de tout reprendre, mais il y avait vraiment une question de justement de propriété foncière. C'était des industriels, donc il y avait un rapport à un métier, une façon de faire qui était très particulière, et surtout il y avait plein de zones blanches parce qu'on n'avait pas de recollement de ce qui se passait dans les sous-sols, et alors même que c'était tout à fait l'enjeu parce que c'était la question des sols pollués et se poser la question aussi de la fertilité des sols et voilà. Donc là je fais un peu dans tous les sens, mais il y a des projets comme ça qui ont été très marquants parce qu'ils ont été des tournants, des prises de conscience qui nous ont amenés à se dire à la fois dans le projet, on se posait déjà la question quelle boîte à outils on mobilise, mais après, plus largement, quelles questions ça pose, comment ça nous positionne, comment on a envie de se positionner, comment on va créer notre équipement pour se positionner de cette manière. Et finalement, on a fait un objet dont on ne savait pas trop ce qu'il était, c'est-à-dire que même au départ, on en parlait, mais de manière beaucoup moins... précise qu'aujourd'hui, où on a le retour de qui s'en est saisi, pourquoi faire, sur quel type de territoire, parce que maintenant, Alexandra du coup a travaillé avec l'IPGP, donc l'Institut de Physique du Globe, et notamment Jérôme Gaillardet, autour de la question de zone critique qui est très importante dans Terraforma, donc sur des territoires qui sont liés aux observatoires, et elle en parlerait mieux que moi, donc je vais pas m'étendre, mais voilà, donc c'est des lieux particuliers, mais il y a eu d'autres territoires d'enquête, des territoires partagés avec Alexandra comme la vallée de la Seine et sur un projet particulier sur les sols, de mon côté les monts du Forez avec la question agricole, donc la vue du sol depuis les exploitations agricoles. Donc voilà, il y a plein de territoires qui sont des territoires d'enquête. Et après, il y a aussi le fait de transmettre ces outils pour que chacun puisse enquêter. Et ça, c'est tout un autre volet du projet.
Futur Terrain, émission mensuelle sur JetFM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Axel Grégoire nous explique que Terraforma naît d'une pratique concrète, des outils pour agir sur les sols et les territoires. Un travail conceptuel inédit mené depuis le terrain, dans des lieux précis, la vallée de la Chimie à Lyon, la vallée de la Seine, les monts du Forez. Pour les autrices, c'est avant tout un travail d'enquête. Et Axel insiste souvent sur une notion clé, la zone critique, théorisée philosophiquement par Bruno Latour dans le contexte de l'Anthropocène et des terres critiques, reliant sol vivant et politique. Pour explorer les manières de représenter nos milieux de vie, j'ai voulu découvrir les 7 modèles cartographiques de Terraforma. Comprendre comment ils ont été conçus, au croisement des observations de terrain et des questions théoriques posées par les autrices. Voir quels effets concrets produit chaque carte, sol, point de vue, paysages vivants, espace-temps, outils ressources, mémoire, et comment ils éclairent les enjeux des territoires, ce qui s'y observe, ce qui peut s'y formuler. Nous cheminons avec Axel dans la lecture de Terraforma à la découverte des modèles. Pour les 3 premiers, il s'agira de la description du terrestre. Mais écoutons Axel.
Et donc point de vue, c'est l'idée de se concentrer sur la focale des entités vivantes, donc des points de vie, comme les appels Emmanuel Ecochia. Donc un point de vie, c'est une araignée, mais c'est nous. Enfin, je veux dire, ça peut être plein d'entités. Et donc c'est un peu sur le même principe que celui du retournement, c'est-à-dire qu'on dessine le territoire qui est enfermé, comme englobé dans le corps des entités. Ce qui amène à penser que, par exemple, si on dessine un territoire avec un arbre dessus, on peut le déplacer, on peut le poser, on peut l'effacer. Alors même que là, si on efface l'entité, on efface le territoire avec lui. Donc ça induit une continuité entre les vivants et l'ensemble des vivants. C'est-à-dire qu'on ne pense plus le territoire comme une surface sur laquelle les vivants existeraient, mais vraiment comme une sorte de continuum transcalaire. Et ça a été beaucoup inspiré de l'hypothèse Gaïa, de Lovelock et Margulis. Et en fait, c'est là où je vous dis qu'il y a eu des rencontres entre des questions de terrain.
Bruno Latour redéfinit Gaïa non comme une déesse mythique ou une terre-mère harmonieuse, mais comme une couche active et réactive de la planète, cette fine pellicule superficielle, la zone critique, où le vivant interagit avec l'atmosphère, les sols et les cycles, modifiant activement son propre environnement. Imaginez une fine couche entre ciel et roche, où sol, eau, air et organismes s'entremêlent et s'autorégulent. Ce n'est pas un décor stable. Gaïa réagit à nos actions, change sous nos pieds. Terraforma vise à lui donner forme par ses cartes. Chaque modèle agit comme une lentille optique. Il révèle ce que les cartes actuelles ignorent, des relations vivantes, politiques à réparer. Elle nous met en demeure de repenser nos projets territoriaux.
Le terrestre n'est pas, voilà, n'est pas, comme je le disais, une surface avec des vivants dessus. Et c'est pour ça qu'il y a l'idée de vivre parmi. Mais une chaîne d'interrelations entre des corps, des corps vivants, et même aussi des corps morts, enfin dans des cycles de vie et de mort. Et du coup, rien que se dire ça, comment on représente cette hypothèse ? Comment, quel type de représentation ? Comment la notion d'échelle qui est normalement fixe dans un plan ou dans une carte, elle résiste ou pas à cette idée de penser le territoire comme une continuité entre les corps et l'espace, quoi. Et bah, c'est un peu comme ça qu'on a absorbé la notion. Le troisième, c'est paysage vivant. Donc là, c'est plus sur la question de l'idée de faire disparaître le fond de plan et de penser la question du territoire à partir du mouvement de ses habitants, de ses vivants. Donc à partir du mouvement des points de vie, là où le deuxième modèle, il était plus partir de la description depuis le corps vers l'espace, là c'est plutôt quelle chorégraphie dessine les vivants. Et du coup, de ne pas penser les éléments stables, mais plutôt justement ces parcours, ces lignes de mobilité, ces lignes de vie, en fait, de ces vivants. Et donc ça, c'est inspiré de... Enfin, c'est encore sous une forme circulaire, c'est inspiré du portulan, donc qui est la façon de cartographier l'espace maritime et à partir justement d'un système de diagonale dont je ne ferai pas la démonstration. Mais ce qui est intéressant, le parallèle et finalement la comparaison, c'est que la mer, c'est un espace lisse, donc il n'y a pas de repère, et donc on crée un repère par rapport à ça. Là, ce qui est un peu différent, c'est qu'on part justement du mouvement des animés pour se dire que ça devient le fond de plan. Finalement, ce n'est pas l'autoroute qui conditionne les flux, c'est plutôt les flux qui vont conditionner le dessin de l'autoroute, si je peux être caricaturelle. Ça veut dire aussi que ça permet, ça pose la question de qui fait partie de cette ronde, à partir de quel corps on fait cette scène, cette chorégraphie des corps. Ça veut dire qu'on peut intégrer, un microbe, un parasite, un oiseau, comme des humains, de manière non hiérarchique. Donc là, encore une fois, à la fois la question du fond de plan et la question de l'échelle, elle est un peu remise en cause, quoi. En tout cas en relecture.
Après avoir exploré les deux premiers modèles, sol et point de vie, nous poursuivons avec Axel sur les autres.
On arrive sur frontières où là, on passe de la ligne de démarcation, qui peut être une ligne abstraite, à une sorte de ligne continue qui est un double ruban de Möbius et qui parle de la ligne qui est la frontière comme justement n'étant pas du tout une ligne, mais qui peut être qui est un espace en soi, c'est-à-dire qu'on part de la définition de l'écologie qui est l'écotone, c'est-à-dire qu'il devient que la frontière est un milieu en soi. Et c'était important de faire de travailler là-dessus parce que quand on était au moment de des élections présidentielles, enfin pas les dernières, les avant-dernières, où la question de la frontière et de la nation était très présente dans le débat public. Donc reposer la question de qu'est-ce qu'une frontière, mais d'un autre point de vue, ça nous semblait important, comme un territoire qui vit, qui échange, un territoire en soi, et aussi comme une sorte de lignes fluides qui voyagent entre différents types de frontières. Les données qu'on avait utilisées venaient d'une étude sur la zone transfrontalière qui était liée à mon diplôme, donc ça remonte quand même pas mal. Et donc c'était intéressant parce que c'était à la fois une frontière physique, il y avait une multitude de frontières en termes d'écologie. Et il y avait cette question de la frontière disparue de l'espace européen. Voilà, il y avait, disons, je montre un peu ce que ça pouvait dire. Mais justement, encore une fois, dans Terraforma, il y a eu des démonstrations de ce que ça pouvait donner. Mais c'est vraiment à l'endroit du prototype, dans le type de données qui a été utilisé. Et là, il y aurait un enjeu fort à utiliser cet outil à des endroits où la question de la frontière se pose de manière inédite, ou en tout cas se repose sur, par exemple, sa disparition, même du point de vue des paysages, par exemple. Ou alors sur des questions de reconstruction de frontières physiques, là où il n'en a pas et que c'est que des lignes abstraites. Enfin, je pense que là, ça serait beaucoup plus intéressant de les poser sur des territoires dont la frontière est vraiment un sujet. On enchaîne sur l'espace-temps, qui est finalement un outil qui décrit assez différemment, la question de l'espace-temps, elle est venue du fait que, bien sûr, quand on travaille le vivant lié au projet urbain, on est tout le temps dans la question de la désynchronisation du temps. Parce que déjà, le projet, il est très phasé, donc il est lié à des phases, des organisations, et c'est une infrastructure lourde qui est difficile de bouger. Et donc, le vivant comme outil de fabrication du projet urbain devient un objet, un matériau, qu'on essaye de conditionner par rapport à des phases. Et c'est là que ça devient évident qu'il faut penser la question de l'espace-temps un peu différemment. Et on a développé des signes, tout un langage graphique qui avait pour vocation de donner à lire des outils qui sont un peu entre deux, à l'endroit de l'urbain, donc la question... était venue un peu toute la liste de la mandature des élus, par exemple, par rapport à ce temps politique, la question de l'événement programmatique dans la ville, la question du temps du vivant qui est incompressible à l'endroit de la croissance, par exemple, etc. Et la question d'un temps qui n'est pas un temps linéaire, comme le pense le projet, comme le pensent beaucoup de nos projets, d'ailleurs, humains, mais qui est un temps cyclique, avec une saisonnalité. Donc en fait, là, on tord la ligne pour aller vers la spirale et aller vers une écriture qui est beaucoup plus celle de la partition, où l'interprétation de la carte est aussi importante que la composition. Et donc la question de la musique, la partition, la note, la gestion du temps par le signe était, à notre avis, quelque chose qui était intéressant. Encore une fois, ce modèle, il n'a pas été pour l'instant par nous utilisé vraiment sur des territoires. C'est vrai que depuis 5-6 ans, on s'est beaucoup concentré sur les trois premiers qui parlaient de la description du terrestre, et on a vu aussi l'épaisseur que portait chacun des outils. En fait, il faudrait peut-être une vie pour épuiser la boîte à outils. Donc ça serait un enjeu, et notamment dans la programmation urbaine, ou même pas à cet endroit-là, mais dans la conception, ça peut être un outil intéressant.
Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une sténographie des espaces-temps, donc des signes graphiques qui agissent un peu comme des notes, en fait, et qui peuvent parler à la fois d'espace-temps élastique, donc qui est une unité particulière, et surtout d'espace-temps en construction, parce que la question du chantier, de l'entre-deux, elle est très présente dans l'espace urbain, de sas de mise en attente. Enfin, en fait, on est plus sur des rapports au temps qui engage l'espace, en fait. Et donc, il y a une dizaine de signes dans cette sténographie des espaces-temps, mais qui est quelque chose qu'il faudrait amender, et notamment au contact d'un projet ou d'un terrain, quoi. Mais la question moi, je trouve intéressant le fixateur. Il y a un des signes qui s'appelle le fixateur, qui est un peu la mémoire collective ou le repère historique. Comment il agit à côté de l'accélérateur, qui peut être un objet qui est de l'ère du raccourci technologique ou pas. Enfin, voilà, c'est un peu comment on essaye de trouver un langage autour des espaces-temps. Et peut-être que, du coup, j'enchaîne sur ressources, parce qu'en fait, c'est assez... à la fois difficile et drôle pour moi de faire cet exercice, parce que finalement, on parle beaucoup des projets qu'on mène, mais on revient très peu sur l'ensemble de la boîte à outils. Donc c'est presque un exercice de retour nostalgique sur les outils. Et en fait, l'outil ressource, donc sixième, justement, on l'a utilisé, on l'a à un endroit. Donc l'outil ressource, il part du principe qu'on peut lire les territoires sur, par rapport au système de la ventouse, justement, que plein de choses, enfin plein de systèmes, et notamment le système urbain, fonctionne comme un système de ventouse qui fabrique un monde en vase clos, organise le rapport aux ressources autour d'une production et d'une extraction. Et du coup, quand la ventouse est retirée, ça fait des trous dans les mailles. Et ce qu'il faut regarder, c'est autour, en fait, toutes les points de ressources qui sont un peu faibles en visibilité, mais qui peuvent exister fort dans comment on réactive en fait ces espaces et comment, là la métaphore du tissage elle est arrivée de manière assez évidente, comment en fait on tisse, on coud, on brode à partir de ces sources latentes pour recréer de la maille dans le trou qui a été dessiné. Et en fait, on l'a utilisé notamment, je peux parler de deux utilisations parce que ça donne à voir beaucoup ce qu'on fait maintenant. Une première utilisation autour d'un travail de Michel Lussault sur un peu la ville anthropocène, en fait, la ville comme étant finalement une ventouse où j'avais pu utiliser en fait ce système graphique et la compréhension, enfin ce dessin pour décrire la ville anthropocène pour le livre Néolithique anthropocène. Et donc là, on voyait comment la ville, elle devenait finalement une mine extractiviste, quoi. Et donc, c'était intéressant de voir comment aussi le concept, l'idée, la pensée d'un géographe, elle rencontrait en fait ce système de dessin et comment on pouvait l'utiliser pour donner à lire ce que nous, on en comprenait. Et voilà. Et puis, une autre utilisation, donc ça veut dire que ces outils servent aussi parfois à accompagner, dans des discussions ou des relations de pensée et de recherche finalement avec d'autres chercheurs. Et on est quand même sollicité sur ces questions-là. Ça a été beaucoup à partir des scientifiques liés aux terrestres, mais maintenant ça s'ouvre aussi à des sciences, plus des sciences humaines. Donc il faut voir aussi comment ces outils ils supportent ça ou pas. Parce que comment on dessine des abstractions, des systèmes politiques, c'est pas, en tout cas, c'est pas fait pour au départ. Et une autre utilisation, c'était notamment, ça avait été une question par les ateliers Luma autour du design biorégional et notamment les designers qui travaillaient autour de ça, pas sur l'ensemble, parce qu'en fait, finalement, presque la Fondation Luma, elle peut être décrite comme une ventouse à Arles. Enfin, c'est un autre sujet qu'on ouvre, mais c'est une question. Et donc comment en fait ces outils-là de la pensée en fait de la réécriture de la question de la filière autour des matériaux liés au design biorégional, elle peut être intéressante à penser à travers ces outils. Et donc ils nous ont commandé une étude on a développé donc avec Alexandra Arène des outils propres à cette recherche à eux. Donc c'était plutôt le support pour d'autres chercheurs ou d'autres praticiens autour de un outil pour faire mémoire de, enfin pour alimenter la mémoire vive de leur pratique, mais aussi pour l'enquête et pour la prospective stratégique. Donc ça, c'est d'autres types d'utilisation de la carte. J'ouvre sur mémoire parce que c'est aussi un outil, par contre, qu'on a commencé à utiliser et qu'on utilise beaucoup plus comme un moyen de penser des boussoles stratégiques dans les projets urbains. Je pense par exemple à un projet récent avec un groupement à Genève sur un plan guide particulier. Comment on anime en fait la question, comment on arrive à penser des bifurcations à partir de l'existant. Et donc en fait ce modèle il partait donc c'était la question de partir le chantier, enfin d'aller vers le chantier du cygne. On partait des traces presque archéologiques, mais on peut considérer que n'importe quel bâtiment est aussi une trace même s'il est encore actif. voir comment il a perdu ou pas son habitabilité et vers quoi on peut l'ouvrir et à quel niveau de temps. Donc il y avait vraiment, c'est vraiment pensé comme une boussole où il y a une partie où il y a une description du territoire par rapport à l'existant et vers des scénarios et des comparaisons de scénarios donc vers l'autre partie de cette boussole. Donc c'est un outil qui est beaucoup plus lié à l'anticipation de futur que, en tout cas beaucoup plus explicitement lié à ça que les autres, par exemple.
Après avoir exploré les 7 modèles proposés par Axel Grégoire dans le modèle Terraforma, j'aimerais savoir maintenant comment il vit. Est-ce qu'il sert à alimenter des projets de recherche? Est-ce qu'il est utilisé dans les projets urbains? Ou est-ce que des territoires s'en saisissent? C'est la question que j'ai voulu poser à Axel, écoutons-la.
Je dirais qu'on peut, on peut penser ça en différents grands chantiers. Il y a déjà, là, on est toutes chercheuses, donc il y a comment ces outils alimentent notre recherche à différents endroits. Donc ça, c'est des projets de recherche. On peut faire partie de projets de recherche aussi. Ça a été le cas notamment sur le projet qui était porté par le Centre politique de la Terre sur le bassin versant de la Seine, dont je parlais tout à l'heure. Et donc ça, c'est une part du travail, en fait, souvent liée à des enquêtes situées. Et il y en a d'autres, là, qui s'ouvrent. Ensuite, il y a ce qu'on appelait les chantiers Terraforma, qui sont comment, en fait, on va donner accès à ces outils parce que c'est un manuel, certes, normalement il y a tout pour pouvoir les mobiliser, mais il y a une volonté d'ouvrir et de rendre accessibles ces outils avec l'idée que bah, si on est capable de décrire son territoire, on est capable aussi de le défendre et de défendre certains endroits, en fait, voilà. Et donc ça, c'était des chantiers très ouverts qui pouvaient, on a pu le faire avec des enfants, comme avec des experts de différents champs, comme avec des habitants des territoires. Donc ça, c'était souvent lié à des invitations plutôt d'institutions culturelles. Donc voilà, ça c'est tout un chantier. Et puis il y en a eu, je sais pas, une trentaine depuis Terraforma. Et donc ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie... bah pour le coup, on parlait de politique tout à l'heure. Ça fait partie d'un positionnement sur ces outils-là. Et après, il y a depuis les projets de recherche, il y a aussi des images qui sont créées qui parfois voyagent dans d'autres endroits. Et on s'est notamment retrouvés autour de l'exposition OLU. On propose une installation dans l'exposition dans le pli des cartes qui deviennent un peu autonomes, quoi, qui se libèrent un peu de cette question d'outils et de projets, et qui deviennent des installations qui peuvent être immersives. Et du coup, voilà, il y a eu des vidéos, il y a eu une série d'expositions dans différents lieux autour de Terraforma qui parlent d'un langage propre, d'une esthétique liée à ces cartes aussi. Enfin, Lusso, justement, il parlait de géoesthétique. Voilà, je trouve ça intéressant de se dire que après, ça existe et ça échappe un peu. Et ça va à d'autres endroits, mais que c'est aussi important de penser que c'est quelque chose qui reste animé, vif, qui reste un outil. Et ça, c'est des moments de suspension où voilà, ces images, elles existent, mais qui est aussi un troisième chantier hyper important pour nous, à l'endroit de la traduction graphique, des choix qu'on fait, parce qu'il y a aussi l'idée que on assume la part de subjectivité dans la traduction dans ces cartes, même si on reste très transparente dans la façon dont elles ont été décrites. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi pas si simple à comprendre, en fait. Et après, ce projet, il vient au départ du projet urbain. Donc, il y a l'idée de comment on réutilise, en fait, ces outils dans le projet urbain, dans le processus de projet. Et là, il y a toute une complexité à réintroduire ça, puisque, en fait, comme je disais, c'est une infrastructure qui a plein d'acteurs. Elles sont pas lisibles d'emblée. En tout cas, elles posent la question de leur lisibilité. Et c'est justement ça qui est intéressant dans le geste, conceptuellement, c'est de mettre aussi tout le monde à l'endroit d'une réécriture collective. Mais par contre, dans le projet, elles n'ont pas l'efficacité de dire à cet endroit, on va planter tel arbre. Voilà, c'est pas l'enjeu, en fait, de dire on va aller du point A au point B. Du coup, se pose la question de juste, alors même que, enfin, à quel endroit on va aller faire. Donc, ça vient vite vers le diagnostic, la concertation, c'est des endroits évidents. Mais à mon avis, c'est aussi des endroits de dessin, de conception, de réflexion. Parce que, et donc le chantier, c'est presque le plus dur, c'est de ramener ça dans le projet urbain.
Comment réapprendre à décrire son territoire de subsistance ? Pour cela, il nous faut une boussole et esquisser de nouvelles cartes. C'est tout l'objet et tout l'enjeu de Terraforma. Les autrices sont compagnonnées avec Bruno Latour. Et maintenant, j'aimerais voir avec elles, avec Axel Grégoire, comment justement ce travail s'est organisé.
C'était là dès le début, en fait, avec la rencontre aussi avec Frédéric, puisqu'on avait travaillé sur... la trilogie du terrestre, et du coup ces images autour de qu'est-ce que Gaïa, qu'est-ce que la zone critique, donc beaucoup de concepts qui ont été portés, développés par Bruno Latour, on les a interrogés au regard de notre pratique, en fait. Avec Alexandra Arène, notamment, on était des analystes cartographes, c'est-à-dire qu'on a travaillé plutôt aux outils graphiques qui pouvaient utiliser après le consortium, qui était grand, avec plein d'expertises différentes, autour d'un projet pilote qui se passait à Saint-Julien. Et du coup, là, c'était un autre enjeu, en fait, c'est-à-dire que c'était finalement, c'était aussi analyser par le dessin ce qui pouvait se passer, mais travailler au support de mise en scène. Enfin, je le vois comme ça, peut-être que d'autres le raconteraient pas du tout comme ça. Travailler à des systèmes, des dispositifs de mise en scène de la parole et de l'enquête et de l'avancée de l'enquête. Et donc, ce que j'en garde, il y a plein de choses, mais c'est aussi cette idée, voilà, donc il y avait un outil qui était notamment la boussole, qui était dessinée au sol, et c'était le lien entre justement l'action, mais là pour le coup dans la parole, et la notation graphique.
Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Axel Grégoire est chercheuse, mais aussi enseignante, à Talmanger, à l'ENSI, à la HED. Et c'est vrai qu'avec elle, j'ai voulu voir quelle était la place du design dans le projet de Terraforma. Elle est certes architecte, mais vraiment, la pratique et le travail qui est effectué interrogent la place de cette discipline, le design, dans ce processus.
Peut-être se pose la question de la discipline en général, parce que finalement, ça, c'est aussi l'idée de s'en affranchir. Moi, je viens de l'architecture, mais finalement, certains ne me considéraient pas comme architecte parce que je n'ai pas construit. Enfin, voilà, c'est qu'est-ce qu'on met ? Moi, je pense que c'est plus une sorte de boîte à outils, et je trouvais que finalement, c'est aussi en découvrant enseignante dans les écoles d'art et design. D'abord à Valenciennes, puis à l'ENSI, puis aujourd'hui à Talm, et aussi à la HED, de me dire que c'est des endroits hyper intéressants. Mais justement, ça repose la question du positionnement et des pratiques de manière très évidente, puisque chacun doit un peu construire son équipement. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est ça que le design me permet. Après, c'est pour ça que j'utilise ça. Parce que ça permet d'ouvrir, en fait. Je trouve qu'il y a une façon de penser le design à partir de la question des pratiques élargies, des pratiques croisées, la question de la du transcalaire. Et c'est peut-être ça. En effet, c'était pas du tout... quand on a écrit Terraforma, on était architecte chez des paysagistes. Et on n'était pas encore, en tout cas avec Alexandra, des chercheuses qui... D'ailleurs, Alexandra a fait son doctorat en architecture. Moi, je l'ai fait en écologie, donc... La question de la discipline, en tout cas à mon endroit, elle est toujours reposée. Quoi. Je suis à la fois une transfuge à chaque fois, en fait. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés à dire qu'est-ce que je fais. Et finalement, dire cartographie, c'est aussi une façon de se poser plus la question de cette pratique aussi de manière élargie, plutôt que se référer à une discipline, même si je trouve qu'à l'endroit des écoles d'art et design, il se passe des choses très, très intéressantes. Et d'ailleurs, ces outils sont mobilisés, sont enseignés.
En écoutant Axel et en lisant Terraforma et les différents modèles de cartes, finalement, on peut se poser la question de la notion de territoire. Et quels sont les impacts qui peuvent être d'ordre éthique, esthétique, politique ? Parce que finalement, le territoire ne se limite plus à des données matérielles et environnementales, mais il se manifesterait plutôt comme un milieu du vivant. C'est pourquoi j'aimerais interroger Axel désormais sur sa notion de territoire.
L'échelle du terrestre, elle était hyper importante pour nous de passer à ça, c'est-à-dire que finalement, elle nous permettait de décrire des phénomènes micro. Et du coup, je ne sais pas si on a une bonne définition du territoire, et je ne sais pas si c'est la bonne entrée. On venait de la question du territoire parce qu'on venait des études territoriales en agence de paysage. L'enjeu, ça serait peut-être de passer du territoire au terrestre. La rencontre avec un territoire se fait à travers la parole, les différents récits de gens qui y vivent sans même le parcourir. On n'est pas c'est vraiment pas de l'arpentage, c'est pas ça l'enjeu. C'est vraiment plus de partir de ces descriptions, de ces focales. Donc je ne sais pas si le territoire est le bon terme qui englobe.
Thank you. L'entrée dans l'Anthropocène nous oblige à repenser notre rapport au sol, à naviguer dans un espace liquide, mais aussi à questionner nos outils de description. C'est ce que propose Terraforma. Elle vise la relecture de nos territoires par le prisme de l'habitabilité. C'est donc d'autres façons de nous situer dans le monde, d'explorer. La carte devient alors un laboratoire. Elle s'augmente d'une valeur de prototypage puisqu'elle doit permettre de tester les possibilités de configuration sociale, géologique ou climatique. Alors pour ces outils cartographiques, quel est l'avenir au regard de tous les enjeux qui nous entourent ?
Pour Terraforma, en fait, il y a encore plein de projets actifs. Il y a une volonté de nous trois de se retrouver et d'avoir un regard sur tout ce qui a été produit aussi, parce qu'il y a une hétérogénéité des projets. Donc on travaille à ça, qui pourrait être un atlas plus qu'un manuel cette fois, en fait, qui pourrait aussi proposer des nouvelles focales, parce qu'elles nous ont semblé importantes, elles étaient émergentes. Il y a l'actualité réelle qui est par exemple cette exposition dans le pli des cartes au LU et qui est aussi des formes qu'on commence à tenter d'installation qui sortent justement de la 2D et de juste qui est déjà quelque chose, mais la question du dessin et de la cartographie. Et donc dans ce sens-là, on va proposer une exposition au Théâtre de Vidy dans l'année 2026. Et donc en fait, les choses avancent comme ça, beaucoup par rencontre, beaucoup par invitation, mais aussi comme parce que c'est un chemin un peu sinueux et de rencontre avec des sujets aussi, des gens. Et après, il y a ce chantier, c'est-à-dire de retourner au projet urbain. Alexandra et Soya via leur agence et moi par d'autres projets, avec ces outils, de voir ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent exister. Et c'est vrai sur des plans guides. Vraiment, je pense que là, notre enjeu, c'est de pouvoir trouver justement l'espace-temps, de regarder ce qui a été produit et le lire dans quelque chose qui n'est pas non plus avec un peu un temps calme qui n'est pas la frénésie de la production.
À travers l'interview d'Axel Grégoire, l'émission démontre que de nouveaux modèles cartographiques, comme les 7 outils de la boîte à outils Terraforma, permettent de dépasser les limites des cartes classiques. L'émission posait la question: pourquoi développer ces outils? Qu'est-ce qu'ils apportaient concrètement dans les projets? Par qui et comment les utiliser? J'ai voulu, dans Futur Terrain, donner aux designers, architectes, urbanistes l'envie de s'emparer de ces cartes pour agir autrement sur le territoire, avec de nouveaux points de vue de représentation. Pour moi, les cartes sont comme des leviers politiques pour réparer le vivant. Alors, je retiens 3 idées principales de cet entretien au cours de l'émission. La première idée, c'est que le premier enjeu de l'usage des cartes est de passer de la notion de territoire au terrestre comme nouvelle dimension de représentation. Le deuxième enjeu est celui de revenir au projet urbain pour appliquer dans les démarches d'enquête et de conception une approche par le terrestre, par l'usage de ces cartes. Et enfin, le troisième enjeu est de rappeler que chacun, en tant que professionnel, doit savoir repositionner ses pratiques aux enjeux situés observés sur le terrain pour concevoir son propre équipement, ses propres outils de représentation. Et c'est là que le design a vraiment une plus-value. L'approche ne se concentre pas uniquement sur des méthodes, car le véritable enjeu est plutôt philosophique. Savoir inventer dans un chemin sinueux de nouvelles manières de penser et de concevoir des projets dans une relation entre les vivants, leur temporalité et leur milieu de vie. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Futur Terrain. Futur Terrain, émission mensuelle sur JetFM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design.